Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Radio Campus Amiens, nous sommes donc à la Citadelle, à l'Université Picardie-Jules Verne, dans le cadre de deux journées organisées par l'université le lundi 17 mai et le mardi 18 mai. Le but, donc, c'est de lutter contre les discriminations faites aux personnes LGBTQI+, donc les discriminations qui sont portées envers les personnes en raison de leur genre et de leur orientation sexuelle notamment.
Et pour cela, aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné de quatre associations amiennoises avec Estelle pour les Bavardes, Timothée de l'association Flash Your True Color, Franck pour SOS Homophobie et Alex et Matt pour l'association Divergeur 80. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
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 On le rappelle, le lundi 17 mai a eu lieu la journée mondiale de la lutte contre les LGBTQI+ phobies. Pour cela, l'UPJV a organisé deux jours, du 17 au 18 mai, avec plusieurs événements à destination des étudiants.
Donc lundi a eu lieu la diffusion du film PD, suivi d'un débat, puis une conférence avec Antoine Leblanc, géographe, qui se questionne donc sur la construction de territoires rassurants pour les personnes LGBTQI+, dans le milieu du sport notamment.
Le mardi 18 a eu lieu un atelier DIY de création d'écharpes avec slogan animé par un étudiant, ainsi qu'une conférence débat avec Johanna Renard autour des féminités déviantes dans les arts. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu quelles formes peuvent prendre les LGBTQI+ phobies ?
En fait, quelles formes ça peut prendre, c'est les agressions.
Oui,
c'est de la marginalisation dans la famille. Après, ça dépend aussi de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle en France ? Est-ce qu'on parle à l'étranger ? De quel continent on parle ? Il y a des pays dans lesquels ça prend aussi des formes purement légales, c'est-à-dire que les gens sont persécutés, mis en prison, exécutés. La question aussi de la marginalisation sociale, c'est-à-dire que un coming out, ça peut aussi vous faire perdre une partie de vos connaissances qui vont ensuite prétendre que vous n'existez plus.
Et en quoi c'est important pour vous cinq aujourd'hui de venir à l'UPJV dans le cadre de ces journées ? Il y a encore beaucoup de LGBTQI+ phobie dans les établissements scolaires et universitaires ?
Oui, il y en a. Hier avant-hier avec les Bavardes, on a intervenu au lycée, à Michelis notamment. Et on a des élèves qui nous ont fait part de choses qu'ils ont pu vivre au sein de leur établissement scolaire. Plus particulièrement au collège, souvent ça se passe avec le harcèlement scolaire, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas trop. Mais oui, ça n'existe pas trop. Et puis même au sein de nos assos, je pense qu'on peut tous et toutes le dire, on a des personnes qui vivent encore au quotidien, qui sont rejetées par leur famille tous les jours. Enfin, tous les jours. C'est régulièrement des messages qu'on reçoit de personnes en difficulté qui sont virées de chez eux, qui se font agresser dans la rue, etc. quoi.
Chez SOS, par rapport aux appels qu'on reçoit, donc cette année, on a reçu 1800, enfin un peu plus de 1800, hein, ce qui est pour la première fois une baisse. Depuis des années, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette baisse de témoignages, donc de personnes qui se faisaient soit effectivement insultées, soit frappées, soit été rejetées par leur famille. Et en fait, au niveau des étudiants, des moins de 25 ans, ça représente à l'école au moins 10% des cas. Donc il y a au moins 10% des cas qui sont dans le milieu scolaire, et après cette année, grosse recrudescence à cause du confinement au sein de la famille et du voisinage.
Et sensibiliser les étudiants aux questions des minorités de genre et des orientations sexuelles, c'est une solution justement pour lutter contre ces discriminations et ce harcèlement ?
C'est une des solutions, il faut commencer même très jeune pour que ce soit percutant et performant quand on intervient dans les établissements, quelles que soient les associations. L'idée, c'est d'échanger avec les élèves pour qu'ils puissent échanger. Certains enseignants en maternelle nous demandent si on peut venir, par exemple. Et l'idée n'est pas de former les enseignants, mais plus les élèves et pouvoir échanger avec eux. Donc nous, on a pris le parti pris, en tout cas chez SOS, d'intervenir à partir de la 5e ou de la 4e. Et c'est ce qu'on fait régulièrement dans beaucoup d'établissements en Picardie et en France.
Moi, je voudrais rajouter qu'en fait, les enseignants, c'est aussi important. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui... je vais prendre la thématique de la transidentité, comme c'est un peu spécifique à l'asso divergent. Par exemple, il y a pas mal d'enseignants qui ne savent pas qu'en fait, considérer une personne, un élève trans, par ses pronoms et puis son vrai prénom, bah, en fait, c'est OK, en fait. Il n'y a pas de loi sur ça, on ne va pas se faire virer pour ça. Parce que ça dépend de l'établissement aussi. Ça dépend de l'établissement aussi. Mais en tout cas, il y a le défenseur des droits qui a lutter un peu pour ça, pour faire en sorte que, notamment dans l'enseignement supérieur, à la fac, etc., là, ce soit quand même OK et que les changements de prénom soient favorisés. Et là, avec, par exemple, avec le PGV, on a réussi à faire en sorte que ça soit diffusé assez au niveau des profs et aussi dans la façon de faire, parce qu'en fait, il y avait juste à faire une demande à l'UPJV pour faire changer son prénom et ses pronoms. Donc ça, c'est quand même une avancée qu'on a réussi à gagner. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis, le corps enseignant doit aussi être sensibilisé et même formé, en fait, et en plus bas sur les lycées et les classes inférieures aussi.
Donc oui, pour toi, Alexandra, c'est l'enjeu, il est autant au niveau des personnes plus âgées que des publics jeunes, en fait, au niveau de la sensibilisation.
Bah bien sûr, parce qu'en fait, on peut très bien se dire « Ah, en fait, je suis trans et peut-être que c'est OK, etc. » Mais si on n'est pas écouté par des adultes qui représentent un peu le cadre, les règles, en fait, au niveau scolaire, etc., bah, comment on fait ? Comment on fait, en fait ?
Juste pour répondre aussi sur ce que vient de dire Alexandra, c'est d'un point de vue général sur la question des personnes qui sont discriminées sur leur identité de genre ou sur leur sexualité, en fait, en parler et rendre accessibles aussi ces informations-là, y compris les informations en fait liées à la question de la discrimination qui est vécue et du dommage que ça peut avoir aussi sur les personnes qui sont discriminées. C'est aussi rendre accessibles ces informations-là et les rendre compréhensibles pour des personnes qui peut-être ne le vivent pas au quotidien et leur permettre aussi de comprendre que certaines actions sont violentes ou inappropriées et peuvent avoir des impacts psychologiques aussi majeurs pour les personnes dans leur développement.
Oui, donc SOS, par exemple, pour rebondir aussi ce que disait Alexandra, depuis 2 ans, on a été conduit par le rectorat d'Amiens donc pour faire des sensibilisations auprès du personnel scolaire, donc que ce soit des enseignants ou tout personnel scolaire. Donc, cette année, on a formé un peu plus de 60 personnes donc, qui étaient inscrites au plan de formation du rectorat. Donc ça va de l'enseignant au personnel de cantine, par exemple, effectivement. Donc, quand on a fait ces interventions, on s'est rendu compte que dans tous les établissements, au moins une des personnes intervenantes avait eu à gérer un cas de transphobie ou de changement d'identité ou de genre pour les élèves. Et effectivement, souvent les enseignants sont un peu démunis parce qu'ils ne savent pas comment gérer la chose, ils n'ont pas été formés. Donc c'est pour ça qu'il est important de les former. Il est important de les informer aussi. Parce que ce que dénonce Alexandra, il y a la loi, et la loi, elle protège et elle aide les personnes trans, c'est-à-dire qu'une personne trans n'a pas à se justifier quand elle veut demander son changement de genre ou de prénom. Tu prends l'université, ce qui est effectivement important, généralement à l'université on est majeur, ou presque. Il faut savoir qu'un enfant mineur, à partir du moment où les parents donnent leur accord, l'établissement ne peut pas refuser, et l'enseignant ne peut pas refuser. Et c'est l'enseignant qui, pénalement, est responsable s'il n'accepte pas. Donc, la loi aujourd'hui nous protège, heureusement, enfin, nous protège, protège les personnes LGBT en général, et en particulier quand on prend l'exemple des personnes trans, en milieu scolaire, la loi les protège et fait en sorte qu'elles soient acceptées par leur identité et pour leur personne, et non par rapport à ce qui est déclaré à leur naissance.
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place au sein des universités et aussi des établissements scolaires en termes de lutte contre les LGBTQI-phobies pour assurer un espace sécurisant pour tous les étudiants et les étudiantes.
Estelle, pour les bavardes.
Je réfléchis tellement de choses. déjà, un accès à ces informations-là au quotidien, c'est pas juste le 17 mai ou la semaine du 17 mai qu'il faut le faire, en fait, c'est tous les jours, des infos qui sont dans les foyers, je sais pas trop, en fait, au sein des établissements. Et puis, c'est un travail de longue haleine, en fait, de faire accepter ça, parce qu'il y a de la sensibilisation au corps enseignant, il y a, enfin, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire de plus, mis à part juste accepter et faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, quoi. Enfin...
Est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, des espaces dédiés, Alex ?
Bah, moi, c'est ce que j'allais dire. Bah, créer des espaces dédiés où, en fait... C'est OK de parler de tout ça, et par exemple avec les infirmières, ils sont un peu directement... on reparle en fait de formation, mais je pense que j'ai envie de... Je raisonne un peu comme Estelle, c'est qu'il faut rabâcher en fait. Ça doit pas être juste une journée en fait, mais ça doit être tout au long de l'année, des actions, des choses, des espaces où on peut s'adresser, et responsabiliser les adultes en fait, parce que... Les enfants, leur interlocuteur direct, c'est eux, en fait. Et donc,
Puis souvent, quand on rencontre les jeunes, en fait, on sait qu'entre eux, et grâce aux réseaux sociaux, ils se s'éduquent, en fait, eux-mêmes. Ils discutent entre eux. Enfin, voilà, on voit... Moi, j'apprends beaucoup plus de choses quand je vais les voir que eux, ils apprennent de moi, finalement. Et en fait, je trouve ça super fou, en fait, parce que moi, à leur âge, je m'imaginais pas tout ça et j'étais loin de tout ça. Et en fait, c'est juste nous, les adultes, qu'il faut éduquer, quoi. Enfin, les jeunes, ils s'éduquent tout seuls.
Je pense que, d'un point de vue général, en fait, votre question, elle est séparée en deux thématiques. L'accès, en fait, à l'information, à l'histoire des personnes LGBT, déjà, c'est quelque chose qui est peu fait, d'un point de vue général. C'est une population, si vous voulez, qui n'a pas d'héritage direct, c'est-à-dire que des personnes LGBT n'ont pas des enfants LGBT, etc. etc. Ce qui fait que la découverte, et ça rejoint un petit peu ce que dit Estelle, la découverte de ces informations-là, en fait, c'est chaque personne qui se retrouve à être obligée à faire les démarches pour les avoir, alors que s'il y avait des structures dédiées, des lieux dédiés, je sais qu'il y a des bibliothèques aussi qui ont ces thématiques-là, ça permet aussi d'avoir accès à l'histoire de ces personnes, à l'histoire de leur combat, à l'histoire des luttes et l'obtention aussi de certains droits, d'une part. Et d'autre part, ça rejoint ce que disait Alexandra, des espaces dans lesquels les personnes ont l'occasion de discuter aussi la discrimination du quotidien, par exemple, ça permet aussi tout bêtement, des fois, de mettre des mots sur des choses qu'on a pu vivre, sur des sentiments qu'on a pu avoir et sur les comportements aussi que des personnes ont pu avoir à notre égard.
Le rompre la solitude, d'une certaine façon aussi, de se rendre compte que notre réalité, en fait, est vécue par d'autres aussi et partagée. Est-ce que vous êtes dans des associations... Matt, tu voulais peut-être réagir.
C'est principalement ce qu'on constate, c'est que les personnes se sentent isolées, n'ont pas forcément les informations nécessaires à leurs souhaits, tout simplement. Et au final, je pense que les choses pourraient être simples, dans le sens où c'est pas compliqué d'appeler une personne comme elle le souhaite. Ou... C'est des choses simples à mettre en place, mais il faut que ça soit mis en place et surtout il faut que les gens aient conscience que c'est parfaitement normal, en fait. Ça doit pas être une procédure compliquée en tout point, quoi. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça.
J'avais juste à ajouter un truc. En fait, il y a des supports qu'on peut trouver, en fait, sur Internet, tout simplement. Sauf que c'est pas accessible à tout le monde, parce que la plupart du temps, c'est en anglais. Et tout le monde ne parle pas anglais. Et en fait, moi, je me trouve confrontée à ça, et des personnes au sein de mon asso aussi, ces personnes. Et en fait, on me dit, moi, je parle pas anglais, je suis nulle en anglais, et comment je fais, en fait, pour comprendre ce qui m'arrive, pour mettre des mots. Et du coup, en fait, ces interventions en milieu SCO, permettent ça et permettent, en fait, de vulgariser ce qui leur arrive, et c'est super important, quoi.
Alors, chez SOS, pour répondre à cette demande, justement, on a mis en place un site depuis quelques années là, qui vient d'être complètement restructuré, qui s'appelle C'est comme ça, donc c'est écrit comme ça se prononce, .net, et qui permet à toute personne, mais ça s'adresse au départ aux jeunes, à pouvoir avoir quelques réponses par rapport à leur identité de genre, à leur orientation, à trouver une culture LGBT. Donc en fait, il y a certaines définitions, il y a certaines réponses à leurs questions, il y a un chat aussi où ils peuvent discuter entre eux et où certains modérateurs peuvent aussi répondre à leurs questions en direct tous les jours. Et donc, ça leur permet d'avoir un peu plus de réponses. Alors, il n'y a pas toutes les réponses parce que toutes les situations sont différentes, mais en tout cas, dans les grandes thématiques, quand on se pose des questions sur son orientation ou sur son identité de genre, ils vont pouvoir retrouver ça.
Il y a quelque chose à laquelle je pense aussi, c'est en fait toujours dans la même dynamique d'apporter... quelque chose qui peut aider, en fait, c'est en termes des représentations, en fait. Je pense que quand on est jeune et on est différent, trouver des repères de représentation vis-à-vis de personnes qui font des interventions, par exemple, et qui sont concernées, en fait, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant, en fait, pour se sentir moins seul, en fait, moins seul, parce que trouver... c'est des choses qui peuvent sauver la vie, en fait, de se dire, en fait, je suis pas seul et il y a d'autres personnes et j'ai le droit d'être comme je suis, d'être différent, et ces personnes-là vivent, et pourquoi pas moi, en fait. Et voilà, je pense que c'est un message qu'il faut adresser aux jeunes, en fait.
À ce niveau-là, justement, il y a eu des études qui ont été faites sur les passages de loi aux États-Unis où la présence de personnes LGBT dans des médias populaires aussi, comme la télé, etc., qui sont faits avant des grandes décisions, en fait, sur les droits, ont influencé aussi les décisions prises sur ces droits. C'est-à-dire que si ces personnes, enfin les personnes LGBT d'un point de vue général, sont présentées aussi, non pas comme cette personne bizarre qu'on peut éventuellement croiser dans la rue le soir dans le noir, mais comme nos voisins, nos cousins, nos tantes, nos mères, nos filles, ça les humanise. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est super important parce que justement, tout ce qui est de l'ordre de la violence à l'égard des personnes LGBT, bah, c'est quand même très déshumanisant. Au-delà de ça, sur ce que disait Estelle aussi, c'est vrai que je trouve que c'est dommage que la France n'ait pas nécessairement la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de travaux de recherche. Et honnêtement, sur certaines thématiques, on se retrouve être aussi un petit peu en retard par rapport au reste du monde.
Donc il y a un enjeu au niveau de la langue, en fait, aussi, de mettre en commun, peut-être entre tous les différents pays, aussi, et donner accès à tout le monde, à toutes ces recherches, toutes ces informations.
Alors après, sur la question de la langue, sur la question de la recherche, il faut aussi voir les contextes culturels et sociologiques, c'est-à-dire que la réalité de l'identité de genre ou de la sexualité ne sera pas la même non plus aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, etc. Parce que vous avez aussi tout un héritage culturel qui va largement influencer la façon dont on est susceptible de voir la question de l'identité de genre ou de la sexualité.
En parlant des problèmes liés à la langue sur les ressources, il y a quand même des ressources qui sont francophones, qui viennent du Québec, en fait, qui sont hyper intéressantes. Mais en même temps, je te rejoins, Zim, parce qu'en en fait, il y a déjà un décalage avec nous, en fait. Ils sont déjà en avance sur énormément de choses. Et nous, bon, on peut s'inspirer, mais il va falloir qu'on se mette une grosse mise à jour, en fait. Et ça va peut-être être un peu...
Et puis qu'on se le dise, les travaux de recherche, c'est pas accessible à tout le monde non plus. Est-ce qu'il y a des termes qui sont... Enfin, moi, par exemple, j'ai pas fait de grandes études où je lis pas suffisamment pour toujours comprendre en fait ce qu'il y a dans les travaux de recherche, quoi. Donc c'est vraiment... je pense que les sites comme C'est comme ça ou d'autres, en fait, ça peut aider... Enfin voilà, vulgariser, c'est vraiment vulgariser ce qui se passe, quoi.
Donc là, en fait, on arrive sur une accumulation des discriminations, en fait, aussi. À partir du moment où on est d'un milieu social moins aisé, on a encore moins d'accès et c'est encore plus compliqué, j'imagine, en termes d'identité, de construction de l'identité pour ces personnes.
Oui, c'est complètement ça. Ouais.
Je vous le rappelle, nous sommes toujours à la Citadelle dans le cadre des deux journées organisées par l'UPJV, le lundi 17 mai et le mardi 18 mai, avec l'association Divergeurs 80, SOS Homophobie, Les Bavardes et Flash sur True Color. Ces trois dernières associations font également partie du collectif IDAO. Est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter le collectif et nous raconter comment est-ce qu'il s'est créé ?
Je pense que Tim le fera mieux.
Si vous voulez, moi la question d'IDAO, ça s'est créé en 2018, il y a des associations qui avaient émergé en fait l'année précédente, c'est-à-dire qu'il y avait les Bavards, il y avait une association qui était translucide, qui ont émergé en fait sur le territoire aminois. Et il y avait déjà un festival autour de la journée IDAO en fait, qui était organisé sur Amiens, qui s'appelait à l'époque aussi le Flash Festival, c'était organisé par notre association. Et avec l'émergence d'associations plus spécialisées sur des thématiques, ça permettait aussi de créer un festival avec des propositions plus poussées. C'est-à-dire qu'au-delà de propositions artistiques qui sont susceptibles de valoriser aussi des artistes LGBT, il y a aussi des conférences susceptibles aussi d'aborder des thématiques LGBT. Et donc on s'est retrouvés à l'époque, on était 6 associations au début, et on a construit donc ce premier festival qui avait rassemblé facilement 1000 personnes, vraiment beaucoup plus aussi que ce qu'une association seule aurait pu faire.
C'est ça, et c'est, du coup ça ne durait pas une journée, ça durait une semaine, donc c'était super important.
L'idée en fait était sur toute la semaine, d'arriver à proposer des choses dans chaque thème. Déjà, d'une part, chaque association pouvait proposer quelque chose, et aussi que chaque personne, quelle que soit la lettre, si on parle d'appartenance à laquelle elle appartient, c'est-à-dire que chaque personne, qu'elle soit lesbienne, qu'elle soit gay, qu'elle soit bi, qu'elle soit trans, qu'elle soit non-binaire, etc., puisse plus ou moins se retrouver dans les ateliers qui étaient proposés ou dans les thématiques qui étaient proposées. Et tout ça dans une journée, d'une part, ce n'était pas possible. Et puis, comme vous dites, effectivement, si on veut avoir de la visibilité, on a poussé à une semaine, pourquoi pas pousser un jour au mois des fiertés, jusqu'à la marche.
Après 2 mois de vacances.
Puis vous menez toutes et tous dans vos associations des actions différentes aussi. Mettre en commun, ça permet peut-être aussi parfois de pallier les angles morts de nos propres associations et de nos propres actions.
Complètement, ça fait réseau en fait. Nous, par exemple, les Bavardes, on est une association lesbienne et féministe, mais la question gay, tout simplement, on n'en parle jamais, parce que du coup, très rarement en tout cas. Après, on commence, on a d'autres, du coup, on est assez inclusif quand même dans l'association, du coup, on parle non-binarité, on parle question queer, trans, etc. Donc ça, Mais moi, par exemple, je ne serais pas légitime de parler de la question gay, parce que je ne la vis pas au quotidien. Et du coup, c'est cool d'avoir des personnes avec qui pouvoir échanger ça, en fait, aussi, et d'ouvrir encore plus ces champs d'action, quoi. Même si c'est une semaine par an, c'est toujours ça.
Moi, je trouve aussi que c'est intéressant de voir les différences aussi d'approche de méthode, des fois, parce qu'une association ne fonctionnera pas nécessairement comme une autre. Et c'est intéressant aussi parce que ça peut nous faire réaliser aussi des fois des manques au sein de notre association ou des méthodes aussi pour mieux fonctionner.
Et c'est aussi évoluer ensemble et se questionner ensemble, en fait. Parce qu'on apprend et puis du coup, on fait des erreurs des fois et c'est cool de dire bah là, t'as fait une connerie et en fait, c'est pas OK, quoi. Du coup, ça permet d'avancer.
Donc là, cette année, vous organisez depuis le 17 mai et jusqu'au 21 mai le festival IDAO. L'idée, c'est de lutter ensemble sur un temps fort contre les discriminations faites aux personnes LGBTQI+.
C'est ça, oui. Pendant la semaine, il y a plusieurs temps. À partir de ce soir, donc 18h30, en présentiel à la boîte sans projet, il y a deux ateliers, un atelier d'écriture sur auteurs et autrices de nos lettres, donc les lettres LGBTQI+. Et un blabla, donc c'est un groupe de paroles revisité proposé par les Bavardes sur les identités de genre. Ensuite, jeudi, il y a une discussion débat autour du chemsex organisée par Ed. Donc ça sera sur Zoom. Et vendredi soir, il y a une scène ouverte 100% LGBTQI+. Du coup, c'est des personnes qui nous ont envoyé des vidéos. On en a fait un montage et ce sera accessible sur YouTube. D'habitude, c'est quelque chose qu'on propose avec du 100% meuf, et là, on l'a adapté pour IDAO. C'était une belle occasion de pouvoir promouvoir les talents personnes LGBT.
Et donc, ça aura lieu tout ça en distanciel, du coup, tous les événements, ou pas du tout ?
Pas du tout. En fait, il y en a juste deux. C'est du coup les deux ateliers de mercredi qui sont en présentiel, donc avec les restrictions habituelles, masques et les gels. Et du coup, c'est à la boîte sans projet. Il y a encore des places si vous voulez vous inscrire. Sur fierté.amien@gmail.com.
Est-ce que vous avez prévu d'autres actions par la suite, après ce festival, pour continuer de lutter contre l'homophobie et la transphobie ici à Amiens?
À la prochaine Pride. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut en parler, mais voilà.
Déjà la prochaine marche, effectivement, en termes de visibilité. Donc, si tout va bien le 19 juin, si tout va bien avec un village associatif, mais c'est des conditions sanitaires qui nous permettront de l'organiser ou pas, ce village. Et puis après, nos associations, de toute façon, œuvrent toute l'année. Enfin, c'est vrai qu'il y a une mise en visibilité des associations, mais il ne faut pas oublier que les associations œuvrent tout au long de l'année, interviennent par exemple dans les établissements scolaires tout au long de l'année, font de la formation et de la visibilité, et puis des actions comme des scènes ouvertes, par exemple, je pense au Bavard, tout au long de l'année.
Puis les collègues aussi qui organisent des permanences, il me semble, divers genres, toute l'année, vous avez des choses aussi.
Oui, avec divers genres à ressusciter les permanences parce que c'était juste nécessaire en fait. Pour les personnes, il y avait un besoin vraiment de retrouver des pairs, de s'entraider, de tisser du lien social avec des personnes qui savent ce qu'on vit en fait au quotidien et s'entraider parce que c'est toujours un peu la lutte. Là, on a encore des problèmes, des personnes qui se font refuser des traitements. C'est toujours la bataille en fait, et du coup, comment on fait les communautés, et c'est pour ça qu'on a lutté pour ressusciter ces événements collectifs solidaires qui étaient déjà proposés il y a une époque, mais qu'on a, avec le Covid, ça a été hyper compliqué, et là on a réussi à ressusciter ça en petits groupes, et c'est super chouette en fait, c'est super chouette. Et puis au-delà de ça, il y a aussi il n'y a pas que les moments collectifs, il y a aussi le soutien où ça va s'adresser directement aux personnes. Ça, on fait ça toute l'année, on n'a pas arrêté avec le Covid en fait, parce que comment on fait quand tout est fermé, comment on fait, à qui on s'adresse quand on a besoin de démarrer une transition, ou alors juste parler, parce qu'on est en questionnement. Et bah ça, bah c'est les assos, quoi, parce que au niveau de la transidentité, les réponses en France, c'est chaud en fait. Hein. C'est le labyrinthe médical, les portes au nez, la transphobie institutionnelle du corps médical. Et ça, bah, il y a que les assos, il y a que les pairs qui peuvent faire ça en fait.
Est-ce que vous avez senti, justement, peut-être une petite dernière question avant de terminer cet échange, est-ce que vous avez senti qu'avec notamment la situation sanitaire, il y a une détresse d'autant plus importante de toutes les personnes concernées donc par les LGBTQI+ phobie ?
Oui, complètement. Alors, pour avoir eu l'occasion de faire des statistiques sur l'activité associative, je peux vous dire que les tentatives de suicide, vous les appelez sur les tentatives de suicide, ont augmenté sur l'année qui vient de s'écouler. Au-delà de ça, en fait, des structures aussi ou des accompagnements sont moins facilement assurés parce que des bureaux sont fermés et des choses sont en suspens. Enfin, moi, je sais qu'on travaille aussi beaucoup avec des personnes en demande d'asile en raison de leur sexualité, qui sont susceptibles de se faire exécuter s'ils rentrent chez eux. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, en fait, c'est des attentes supplémentaires qui peuvent être faites aussi avant d'être entendues. Ça crée des pressions supplémentaires aussi psychologiques. Et enfin voilà, ça c'est des choses aussi qui sont en quelque sorte à gérer.
Matt pour Divergeur 80.
J'allais dire qu'on remarque notamment lors de rencontres qu'on fait avec les personnes qui contactent l'association. Elles n'ont pas vu grand monde depuis très longtemps et supportent leur mal-être seules depuis du coup un moment aussi. C'est pour ça que c'est important de continuer ces échanges, de continuer ces rencontres et continuer à les orienter du mieux possible, que ce soit, comme le disait Alexandra, que ce soit par le biais d'informations, de soutien ou même de contacts qu'ils peuvent rencontrer par la suite.
Nous, chez nous, le confinement, il a eu deux, par rapport à ça justement, il a eu deux impacts énormes en termes de discrimination. Le premier, c'est l'augmentation des violences faites aux personnes LGBT au sein du foyer familial et au sein du voisinage, puisque jusque-là, ça représentait moins de 10%, c'était 8%, on est passé à 13%, d'une part. Et deuxièmement, le confinement, il a aussi empêché beaucoup de personnes de se défendre. Et je pense par exemple à porter plainte, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer quand elles étaient victimes, par exemple de harcèlement ou de discrimination. Et énormément de personnes nous ont contactés en nous disant « il y a deux choses, il y a d'une chose que je vis, et en plus de ça, je ne peux pas faire valoir mes droits si je veux les faire valoir, parce que les commissariats sont fermés, on n'accepte pas de nous recevoir, il faut prendre rendez-vous. » Alors, déjà que c'est très compliqué en temps normal de se faire entendre, de faire accepter que ce soit une plainte qui soit prise et non une main courante, les personnes étaient en fait doublement victimes de ce confinement parce qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer et faire valoir leurs droits. Donc chez nous, ça a explosé, et notamment chez les personnes trans, et cette année, pour la première fois, chez les personnes bi, parce qu'en fait, le confinement faisait que les personnes étaient tellement ensemble qu'elles ne pouvaient plus avoir leur intimité, et ne serait-ce que recevoir un SMS de son amoureux ou de son amoureuse, eh bien, c'était plus comme avant, parce qu'il n'y avait plus cette part d'intimité qui faisait qu'on pouvait vivre sa vie cachée. Et énormément de personnes nous ont dit avoir dû vivre leur coming out à cause de ce confinement. D'où l'augmentation des discriminations, parce que plus vous vous exposez aujourd'hui, hélas, au niveau LGBT, plus vous risquez d'être discriminé.
Et j'ai envie de rajouter quelque chose aussi, c'est que cette situation de crise sanitaire, en fait, elle a fait aussi souffrir, je pense que vous, mes collègues seront d'accord, les associations elles-mêmes aussi. Et ce qui s'est répercuté sur les personnes qu'on est censé soutenir, parce que en fait, au bout d'un moment, quand y a plus d'autres, enfin les bénévoles, tout le monde est confiné chez soi, et bah, à quel moment on a l'énergie de pouvoir la redistribuer en fait aux personnes qui en ont le besoin. Et l'énergie, elle est épuisable en fait, elle est pas extensible, et on est aussi des bénévoles et voilà, les assos ont extrêmement souffert aussi, et du coup ça s'est répercuté sur les personnes qui étaient censées pouvoir être aidées en fait par les associations.
Bah, merci beaucoup à vous cinq, pardon.
Merci aussi à l'UPJV de nous avoir accueillis. Et même si les journées de la lutte contre l'homophobie sont terminées ici à l'UPJV, le festival IDAO continue jusqu'au vendredi 21 mai. Ce soir à 18h30, vous pouvez participer à un blabla sur les identités de genre et à un atelier d'écriture sur le thème auteur et autrice de nos lettres.
Jeudi, vous pourrez également retrouver une discussion débat sur le sujet du chemsex en visio à partir de 18h30. Et puis vendredi 21 a lieu à 20h une scène ouverte virtuelle 100% LGBTQI+. Pour plus d'infos, donc rendez-vous sur la page Facebook Collectif IDAO Amiens.
Dans tous les cas, on vous met toutes les infos nécessaires dans le podcast de cette émission.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis à demain, 12h et 18h sur Radio Campus Amiens. Suite à un problème technique durant l'enregistrement de cette émission, certaines pistes audio ne sont pas de très bonne qualité. On vous présente donc toutes nos excuses pour le dérangement.